dans le territoire de la communauté d'agglomération de pleine commune. Nous verrons ensuite quels sont les rôles, fonctions, quelle est la place finalement des bibliothèques de quartier dans ce projet de ville durable. Et enfin, nous aborderons la question de la conflictualité qui traverse ces bibliothèques de quartier et qui finalement pose les premières limites de ce projet politique. Donc, depuis plusieurs années déjà, la ville est au centre de préoccupations qui portent essentiellement sur les questions d'inégalité sociale, d'inégalité socio-économique, mais aussi les questions qui portent sur les enjeux écologiques. Ces inégalités sociales, elles consistent sur les questions d'accès au logement, les inégalités territoriales en matière d'environnement et, entre autres, l'accès aux services élémentaires, que ce soit les services d'éducation, de transport, de loisirs, les services culturels. Ce sont des problématiques qui sont encore et toujours du ressort des acteurs politiques, mais dont les citoyens se saisissent de plus en plus, notamment dans le cadre de programmes de démocratie participative. Et la ville est également un enjeu de réflexion et de questionnement à cause des différentes scènes de conflictualité qui s'y présentent, notamment lors des émeutes urbaines ou des violences urbaines qu'on a pu connaître, notamment en novembre 2005 ou en 2007. Donc, je vous l'ai dit, l'un des enjeux de la ville durable est la question de cet accès aux différents services d'éducation, de loisirs, de transport, avec comme objet central la question de l'égalité d'accès, c'est-à-dire l'égalité d'accès, quelles que soient les caractéristiques socio-économiques des individus et leur position dans la ville. Cette position dans la ville, elle apparaît dans les questions d'étalement urbain, avec l'éloignement des centres-villes où sont souvent concentrées les activités administratives, les différents services publics. Et ces zones éloignées des centres-villes sont aussi ces zones où sont majoritairement concentrées les populations les plus pauvres. Donc à partir de là, comment contrer ce phénomène d'extension de la ville? Comment apporter une présence politique, étatique et administrative dans les zones situées aux confins de la ville? Si on se concentre sur l'échelle locale, donc sur le territoire de la communauté d'agglomération de pleine commune, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique très rapidement ce que c'est. C'est une communauté d'agglomération qui regroupe aujourd'hui 9 villes de la Seine-Saint-Denis, qui a été effective à partir de l'an 2000 et qui avait pour objectif une redynamisation du territoire basée sur la mutualisation des efforts de chacune des communes. Mutualisation des efforts qui devait porter sur les politiques d'habitat, d'accès à l'emploi, de politique culturelle. Et dans cette perspective, donc, pour ce qui nous concerne ici, relative aux politiques culturelles, a été instauré un réseau de lecture publique qui aujourd'hui regroupe 25 médiathèques, 3 bibliobus, répartis donc sur les 9 villes en question, avec pour enjeu un maillage du territoire pour favoriser une égalité d'accès à la culture à tous, quelle que soit sa position dans la ville et entre les villes. Et ce réseau de lecture publique avait comme objectif principal une diversification des collections et des activités proposées par ces bibliothèques et une modernisation générale de tous les services proposés. Les questions de ville durable et les enjeux de la ville durable à l'échelle locale, donc sur le territoire de pleine commune, sont définis par deux textes, deux orientations, deux programmes. L'agenda 21 local et le SCOT, donc le schéma de cohésion et d'organisation territoriale, donc je ne vais pas développer ici, mais on pourrait y revenir après, qui définissent un ensemble d'enjeux, de prescriptions, de diagnostics, avec des questions relatives aux questions écologiques, mais aussi aux questions d'accès à la culture, à l'emploi, à tout ce que je viens de proposer. Donc finalement, quels peuvent être les rôles et les fonctions attribuées aux bibliothèques dans ce projet de ville durable? Les bibliothèques sont de plus en plus investies par les pouvoirs municipaux et pour les territoires qui nous concernent, sont souvent construites dans le cadre de projets de rénovation urbaine. À ce titre, donc, elles apparaissent comme des moyens de transformation et de valorisation du territoire et un moyen de désenclavement des quartiers qu'on appelle les quartiers populaires difficiles ou parfois on peut encore les qualifier de no man's land ou de territoires sensibles. Par ces constructions de bibliothèques dans des quartiers dits défavorisés, on y voit un apport de la culture, mais aussi l'apport d'une présence politique. Ces bibliothèques sont envisagées comme des moyens d'accès au savoir, comme des outils du lien social, comme des lieux de sociabilité, des lieux de rencontre, comme des espaces publics et des espaces démocratiques. Finalement, par le biais des bibliothèques de quartier, le pouvoir politique investit le territoire des classes populaires sur trois dimensions qu'on peut énumérer comme les dimensions sociales, politiques et culturelles. Mais ce projet qui est attribué aux bibliothèques comme devant participer à la transformation de la ville et devant finalement participer d'une construction du vivre ensemble et d'un sentiment commun d'appartenance à la ville dans la durée, rencontre des limites à cause de plusieurs problématiques auxquelles sont confrontées ces bibliothèques et leurs bibliothécaires. Donc la première de ces problématiques est la faible fréquentation de ces équipements, puisque dans le territoire qui nous concerne, à peine 10% de la population locale est considérée comme usagère active de ces bibliothèques. Si on met ça en parallèle avec les statistiques locales correspondant au niveau de formation, on sait que dans ce territoire, plus de 3/4 de la population de plus de 15 ans n'a jamais fréquenté un lycée d'enseignement général. Donc c'est peut-être une première explication, mais c'est aussi ce qui justifie de la part de ces responsables de la lecture publique d'activer cet effort en direction des bibliothèques. Mais cette faible fréquentation nous oblige à nous poser la question de savoir finalement quelle est la représentativité de ce public, qui représente à peine 10%, je l'ai dit, par rapport à la population, par rapport aux habitants de ces quartiers. Qui sont les fréquentants, quels sont leurs profils et surtout quels sont les usages qu'ils font de cette institution. La deuxième problématique qui apparaît est la question des violences. Ça peut être des violences qui se passent au sein de la bibliothèque, qui opposent une partie des usagers avec les bibliothécaires, qui peuvent prendre des formes soit de violences physiques, soit de violences verbales, ou ces mêmes violences, qu'elles soient physiques ou verbales, qui peuvent aussi se dérouler à l'extérieur du quartier, mais qui mettent toujours en scène les bibliothécaires et une partie de la population locale. Et ensuite, il y a aussi des violences qui ont été recensées à l'encontre même des monuments des bibliothèques elles-mêmes, que ce soit lors des émeutes qui peuvent consister en des incendies, des tentatives d'incendie ou des caillassages. Donc ces deux problématiques, finalement, nous obligent à nous poser la question de quel est le rapport que les médiathèques de quartier entretiennent avec leur quartier d'implantation, avec leur environnement social. Quel est le rapport que ces habitants de quartier ont avec cette institution, qui, dans l'imaginaire collectif et historiquement aussi, c'est vrai, est largement associée à la culture dominante, légitime ou encore savante. Et ça pose aussi également la question du rapport à l'État et au pouvoir politique. Quelle est la place occupée par les équipements collectifs placés par le pouvoir politique dans ces territoires, dans les territoires des classes populaires? Et quelle est la réception de ces équipements collectifs par les habitants? Ces différentes problématiques, finalement, nous font apercevoir que les bibliothèques sont des institutions ambivalentes. Pourquoi ambivalentes? Parce que déjà, historiquement, c'était une institution largement centrée autour du livre et de l'écrit. Et en raison de l'évolution des pratiques et modes de consommation culturelle, de l'évolution des technologies, les bibliothèques sont devenues peu à peu des médiathèques. Elles ont fait rentrer en leur sein, à côté des livres, des CD, des DVD, des CD-ROM, des postes informatiques. Elle développe de plus en plus d'activités tournées autour de l'audiovisuel avec des ateliers slam. Donc le livre est toujours présent, mais il côtoie les autres supports et d'autres formes de pratiques culturelles. Au départ, largement considérées comme une institution centrée autour de l'écrit, les bibliothèques sont aujourd'hui de plus en plus considérées comme des lieux de sociabilité, des lieux de rencontre, comme des espaces publics ouverts à tous, où chacun a sa place et où tous les usages sont légitimes. Mais ça, c'est, je dirais, le projet politique. Concrètement, la première ambivalence apparaît dans le fait que cet espace qui se veut public et démocratique fonctionne par catégorie. Catégorisation des collections, catégorisation des publics et catégorisation des usages. Avec à chaque fois un système binaire entre ce qui est légitime et plus ou moins illégitime, ce qui est normal et ce qui est plus ou moins anormal. Et finalement, c'est cette question de la confrontation entre légitimité, illégitimité, normalité, anormalité, je mets des guillemets, qui est la source de conflits. Ces conflits apparaissent finalement quand différents systèmes de normes se rencontrent. Les normes qui existent au sein de la bibliothèque et dont les bibliothécaires sont les garants, et les normes qu'on peut retrouver, par exemple, à l'échelle du quartier. La bibliothèque, finalement, devient un espace public conflictuel en traçant des frontières entre ce que je viens de vous dire, illégitime, légitime, normal, anormal. Ces normes, les conflits qui opposent ces différents systèmes de normes, apparaissent dans différentes scènes, différents éléments, notamment sur la question de justement cette tension qu'il y a entre une bibliothèque qui se veut de plus en plus ouverte et non plus cantonnée au seul livre, mais qui en même temps reste centrée majoritairement sur ce support, qui exige une certaine individualisation des pratiques, une certaine excise corporelle, un recentrement sur soi. La première source de conflit apparaît quand justement une partie du public, je parle ici surtout du groupe, ce qu'on appelle les jeunes, qui au contraire ont une utilisation largement collective et groupale de cette institution. Un mode d'appropriation collective de l'espace, des pratiques collectives, que ce soit au niveau des pratiques de lecture, des jeux ou ce genre de choses. Un autre exemple de frontière qui est tracée entre la bibliothèque et le quartier, qui peut être à l'origine de ces conflits, porte sur la question du langage. La bibliothèque se veut un espace qui permet l'accès à l'écrit et une meilleure appropriation de l'écrit par les populations. La langue légitime à l'intérieur de la bibliothèque est le français, ce qui entre entre guillemets en contradiction avec les usages langagiers à l'échelle du quartier, puisque nous sommes dans des territoires où il y a une multiplicité des origines ethniques et des parcours de vie, et où les langues étrangères sont largement pratiquées et entendues. Et des conflits apparaissent quand, au sein de la bibliothèque, certains usagers s'adressent entre eux ou à l'encontre des bibliothécaires dans une langue étrangère. Cette question de la langue se pose aussi pour ce qui concerne les formes linguistiques juvéniles qui peuvent faire violence aux bibliothécaires. Là encore, il y a des rappels à l'ordre réguliers de la part des bibliothécaires à l'encontre des jeunes, ce qui entraîne des conflits plus ou moins importants, ou sans aller jusqu'à parler de conflits, qui peuvent entraîner une indifférence ou une désaffection de la bibliothèque. Il y a aussi une question relative au genre, puisque la bibliothèque est un espace largement associé au féminin à cause de la lecture et du fait déjà que la grande majorité des bibliothécaires sont des femmes. Et à l'inverse, l'espace de la rue dans les quartiers est largement renvoyé au masculin. Donc ça peut aussi poser des questions dans le cadre des interactions qui peuvent se dérouler au sein de la bibliothèque, mais j'y reviendrai après si vous le souhaitez. Et enfin, je finirai là-dessus. La bibliothèque trace également des frontières au sein du quartier avec les autres institutions locales. Et la tension apparaît justement puisque ces bibliothèques font tout pour être intégrées localement et multiplier les partenariats tout en gardant leurs spécificités. Elles peuvent par exemple travailler avec des établissements scolaires, des associations, mais des problèmes se posent sur les différents rapports à la lecture et à l'écriture par rapport à l'école, ou par rapport à la question religieuse, au devoir de réserve, ou au sentiment de menace d'une entrave de leurs actions par les leaders religieux locaux. Finalement, loin de réaliser ces objectifs de vivre ensemble et de création du commun, ces différentes tensions, ces différentes problématiques renforcent les frontières sociales au sein des quartiers populaires. Enfin, pour conclure, l'ambiguïté qui est sous-jacente aux bibliothèques renvoie à la notion d'espace public, puisque si les bibliothèques souhaitent travailler avec les institutions locales pour toutes sortes de raisons, elles veulent conserver une certaine spécificité par rapport à ces autres institutions. Elles se définissent comme espace public, c'est-à-dire un espace ouvert à tous et à tous les usages, mais on a vu que différents systèmes de normes peuvent poser des problèmes à cette question de l'ouverture. Et finalement, les bibliothèques deviennent des espaces où se tiennent des conflits sociaux. Et finalement, la double ambiguïté de la bibliothèque renvoie à cette question de l'espace public. Tout d'abord, l'espace public qui peut être considéré comme un espace normé, où c'est justement le respect des normes qui est garant du vivre ensemble. Mais là, on est obligé de se poser la question de savoir qui dicte ces normes, en quoi sont-elles légitimes et comment sont-elles recevables, et qui les transgresse et pourquoi. Et enfin, concevoir l'espace public comme un espace non conflictuel, mais justement, l'espace public est un espace consubstantiellement conflictuel. Et la dernière ambivalence que je voulais souligner, qui n'est pas uniquement du côté de l'institution de la bibliothèque, mais qui est plus dans le rapport que les habitants entretiennent avec cette institution culturelle, c'est un mouvement de va-et-vient, de tension entre à la fois des rejets, pour caricaturer, je dirais qu'ils peuvent avoir le sentiment d'une intervention extérieure du pouvoir politique qui sait ce qu'il faut faire, qui sait comment transformer leur territoire, et parallèlement, un sentiment d'appropriation, c'est notre bibliothèque. Finalement, ces questions relatives aux bibliothèques soulignent l'ambivalence du rapport à l'État et soulignent la question de la citoyenneté dans les quartiers populaires.